Alors, je passe au second thème que j'annonçais, c'est-à-dire la loi Yadan.
Oui.
Alors, je ne vais pas parler de la loi Yadan, je ne vais pas essayer d'en parler, d'abord parce que ça dépasserait très largement le cadre d'une émission. Il faut regarder tous les articles de loi,
Bien sûr.
les situer juridiquement, les situer socialement, sociologiquement, voire philosophiquement. Hein?
Exact, oui.
Alors, tout ça, c'est compliqué. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, du fait même du sujet de la loi Yadan, qui porte sur l'antisémitisme, elle constate, Madame Yadan, la députée Caroline Yadan, constate, comme tout le monde, la montée de l'antisémitisme. Spectaculaire, inexplicable, problématique, aujourd'hui. Et la loi vise à réprimer les, alors je mets les guillemets maintenant, nouvelles formes d'antisémitisme. Certains nient qu'il y a des nouvelles formes, considèrent que c'est toujours le vieil antisémitisme qui se recycle. Bon, peu importe, c'est un débat qu'on pourrait avoir aussi. Y a-t-il ou non de nouvelles formes? Mais les nouvelles formes de l'antisémitisme par rapport, alors notamment des formes liées à l'antisionisme. L'antisionisme, je mets là aussi les guillemets parce que tous ces termes sont extrêmement incertains, flous. Hein. Qu'est-ce que c'est que le sionisme? Qu'est-ce que c'est que l'antisionisme? Et en tout cas, ça devient une expression d'un antisémitisme qui se dit autrement, qui se prononce autrement qu'il ne se prononçait. Quand des slogans comme sionisme, virgule, génocidaire, virgule, hors de nos facs, les slogans qui se disent sur les campus volontiers, voilà les expressions de nouvelles formes d'antisémitisme ou de nouvelles expressions de l'antisémitisme liées à la situation en Israël et que Caroline Yadan, dans son projet de loi, se propose de poursuivre pénalement. Alors il y a eu par rapport à ce projet, à cette proposition de loi, qui a évolué d'ailleurs, qui a évolué dans son expression. Caroline Yadan a été conduite à changer certaines propositions d'articles. Il y a eu une pétition qui a monté au galop, si je peux dire. C'est-à-dire, c'est très vite, on a atteint 50 000, puis 100 000. Et actuellement,
C'est 700 000 si je me trompe pas
700 000,
actuellement, oui,
700 000
à l'heure actuelle.
signataires, voilà. 700 000 signataires. Alors, le mieux, c'est que je la lise, c'est pas très long, qui a été proposé à l'Assemblée, un texte qui a été proposé à l'Assemblée nationale et qui a donc obtenu 700 000 signatures. Ce projet de loi porté par Caroline Yadan prétend lutter contre de nouvelles formes d'antisémitisme. Cependant, lorsqu'on lit l'exposé des motifs, on remarque un amalgame entre l'antisémitisme et la critique d'Israël. Entre parenthèses, antisionisme. On peut lire, par exemple, cette haine de l'État d'Israël est aujourd'hui consubstantielle à la haine des Juifs. L'appel à la destruction de cet État parce qu'il forme un collectif de citoyens juifs est une manière détournée de s'attaquer à la communauté juive dans son ensemble. Fin de citation de la loi. C'était la pétition cite ce passage de la loi. Cet amalgame opéré par Caroline Yadan n'est pas innocent. En effet, en 2025, un tribunal correctionnel a relaxé une personne accusée d'antisémitisme pour avoir soutenu la cause palestinienne. Ce même tribunal a énoncé, alors cette fois-ci citation de l'arrêt du tribunal, la référence à Israël ou au sionisme, définie comme un mouvement politique et religieux visant à l'établissement puis à la consolidation d'un État juif en Palestine, ne peut à elle seule être interprétée comme visant la communauté juive dans son ensemble. Fin de citation. On peut donc craindre que, reprend la pétition, on peut donc craindre que ce projet de loi ne cherche à contrer ces relaxes et à obliger les juges à opérer cet amalgame entre antisémitisme et antisionisme afin de faire taire toute critique contre Israël. Cet amalgame est scandaleux pour trois raisons. Il représente un réel danger pour la liberté d'expression en muselant tout soutien à la cause palestinienne. Si ce projet de loi devait être voté, des slogans pacifistes comme « l'égalité et la liberté pour tous de la mer au Jourdain » pourraient faire l'objet de condamnations judiciaires. Le travail des journalistes et des chercheurs pourrait également s'en trouver censuré. Il appuie indirectement la colonisation de la Palestine par Israël, illégale au regard du droit international. Troisième raison, il dessert la lutte contre l'antisémitisme en assimilant les Juifs et Juives à la politique de Benjamin Netanyahou, alors que nombre d'entre elles et eux critiquent ouvertement et à juste titre cette politique mortifère. Oui, il faut lutter contre l'antisémitisme de toutes nos forces, comme contre toutes les autres discriminations. Mais pas en muselant la liberté d'expression ni en assimilant la communauté juive à la politique de Benjamin Netanyahou. Oui, Israël est un État qui a orchestré des expulsions, comme durant la Nakba de 1947-1948. Expulsions encore perpétrées en 2025 en Cisjordanie contre les camps de réfugiés. Oui, la résistance palestinienne contre l'occupant israélien par tous les moyens nécessaires est un droit garanti par la résolution des Nations Unies 2621-25 du 12 décembre 1970. Députés et députées, je vous appelle à voter contre ce projet de loi liberticide appuyant une politique colonialiste et génocidaire contre les Palestiniens et les Palestiniennes. Voilà le texte de la pétition. Alors, c'est un texte qui présente quand même des... je voudrais insister là-dessus. Évidemment, je ne vais pas tergiverser. Je suis personnellement radicalement contre le texte de cette pétition. Ce n'est pas simplement une option politique que je prendrais et qui, ne, à ce moment-là, ne regarderait que moi. Mais là, comme militant de la LICRA en particulier, c'est-à-dire comme engagé dans la lutte contre l'antisémitisme, je voudrais souligner qu'à bien des égards, il donne possibilité à cette lutte et ce qui est alarmant, c'est qu'il est signé par 700 000 personnes. Alors tout à l'heure, on parlait de ce qui se passe sur Internet et je soulignais le fait que quand une affirmation est répétée 1 million de fois, elle devient une vérité. Eh bien, si effectivement le texte donne possibilité à l'antisémitisme, qu'il soit signé par et approuvé donc par 700 000 personnes, est extrêmement alarmant. Était aujourd'hui extrêmement alarmant. C'est-à-dire 700 000 personnes, si le texte contenait des éléments favorisant l'antisémitisme, eh bien 700 000 personnes l'accepteraient comme telle, sans dire autre chose, sans s'en alarmer.
Après, si le texte il a eu lieu, enfin, si ce texte-là il a eu lieu et qu'il y a eu autant de signatures, il faut. Tout à l'heure, on avait dit aussi qu'on ne peut pas faire le travail ni d'un avocat ni d'un juriste, car ce n'est pas notre fonction. Moi-même, je suis service civique. Vous étiez donc professeur. Et c'est. Avant de. Je pense que le meilleur point de vue, c'est de lire le texte, lire le projet de loi, donc il y a dedans, au complet, de le comprendre, essayer de comprendre tous les projets de loi qui peuvent avoir lieu. Et suite à ça, on peut donner réellement un avis qui peut être constructif ou non. Moi, vis-à-vis de. Je m'abstiendrai de donner mon avis, honnêtement. Mais sur le point où accorder de l'importance juste par l'aspect quantitatif, entre guillemets, enfin sur l'aspect de la quantité de personnes, ça je suis complètement d'accord à ce que et il faut d'abord, avant de voir le chiffre, entre guillemets, car beaucoup fonctionnent, malheureusement ce monde fonctionne aussi comme ça, on fonctionne avec beaucoup le matérialisme en partie, mais avant de voir le nombre de personnes qui a voté, il faut d'abord se faire son avis, et c'est ça le plus important. En tout cas, ça, c'est le message que je peux dire là-dedans.
Oui, non, mais ça, c'est, je veux dire, les députés, s'ils examinent le texte ou quand ils l'examineront, parce que pour l'instant, la proposition de loi demeure, mais quand ils examineront cette proposition de loi, ben, ils donneront, on peut l'espérer, un avis raisonné. Puis entre-temps, il y a beaucoup d'articles, beaucoup de oui. gens qui prennent la parole là-dessus, qui s'expriment. Mais moi, ce que je relevais dans la pétition, c'était ça qui m'importait, c'est que il y a plusieurs points qui potentiellement laissent légitime ou méconnaissent l'antisémitisme. Alors bien sûr, il y a ce passage que je relis. Oui, il faut lutter contre l'antisémitisme de toutes nos forces. Mais, il ajoute, comme contre toutes les autres discriminations. Alors là, on a un problème. Là, je dis qu'on a un problème. Parce que l'antisémitisme est-il une discrimination ? Il peut l'être.
Bien sûr.
Récemment, j'assistais à une réunion, à une convention de la LICRA, une convention nationale, dans laquelle parlait Jonathan Arfi, le président du CRIF, et qui convenait, oui, l'antisémitisme qui n'était pas une discrimination peut devenir une discrimination. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous êtes juif et que vous n'obtenez pas tel ou tel emploi ou tel avantage social par rapport à d'autres qui ne le sont pas parce que justement vous êtes juif. Mais c'est pas ça le fond de l'antisémitisme. Il y a, je le rappelais tout à l'heure, il y a une population juive de, ou dite juive de une quinzaine de millions dans le monde, c'est-à-dire un groupe extrêmement restreint par rapport à la population mondiale. La dimension de l'antisémitisme n'est pas à la mesure de cette faible quantité de juifs, de ce faible nombre de juifs. La dimension de l'antisémitisme est infiniment plus forte, plus prégnante, plus importante, plus significative que ce que représente ce faible nombre de juifs. Alors, ramener l'antisémitisme à une discrimination qui porte sur qui ? Qui porterait sur un petit groupe de personnes. Alors, quand on parle de discrimination, on renvoie un certain groupe de personnes dont on dit qu'ils sont victimes. La thématique aujourd'hui sur le fond de la discrimination à propos des juifs, c'est renversé. C'est-à-dire ce faible nombre de juifs, on va dire, le discours antisémite dit « Ah mais attendez, ils sont partout, ils sont faibles, mais ils ont une influence formidable. En plus de ça, c'est des oppresseurs, voyez Israël, voyez ce qui se passe en Israël. » Donc le sens du vecteur s'est complètement inversé. Donc ramener l'antisémitisme à une discrimination, c'est n'est pas rien. En plus de ça, remplaçons le mot discrimination par racisme, parce que c'est peut-être ça aussi que les auteurs de la pétition, les rédacteurs de la pétition avaient en tête. Et si je lisais « Il faut lutter contre l'antisémitisme de toutes nos forces, comme contre tous les autres racismes », c'est marqué discrimination hein, quand même, mais comme contre tous les autres racismes, à ce moment-là, on dirait encore autre chose. On laisserait apparaître quelque chose. Oui, mais qu'est-ce que c'est que ces juifs qui sont privilégiés ? Ils voudraient que l'antisémitisme soit distingué entre toutes les formes de racisme. Non, pas plus que les autres, à égalité avec les autres. Et de nouveau, on a le thème antisémite du privilège juif, sans compter, encore une fois, que justement les juifs, loin d'être des victimes aujourd'hui registre de l'antisémitisme, les juifs, loin d'être victimes, sont en réalité les oppresseurs. Voilà un point. J'en relèverai un autre dans cette pétition, point qui est quand même assez, je trouve assez sidérant. Oui, la résistance palestinienne contre l'occupant israélien par tous les moyens nécessaires est un droit garanti par la résolution des Nations Unies 2621-25 du 12 décembre 1970. Droit à la résistance. La résistance palestinienne contre l'occupant israélien. Oui, mais là, on est dans l'abstrait. Le concret, c'est il y a 3 ans. Hein? Le concret, c'est il y a 3 ans, c'est 2023, le 7 octobre 2023. Est-ce que c'est une forme de la résistance ? Est-ce que c'est une forme de la résistance légitime ? J'ai entendu hier qui est en accès libre là, sur Mediapart, une émission du média de Mediapart avec le philosophe Étienne Balibar, homme qui paraît très sympathique, hein, très intelligent, très sympathique. Mais qui, dans le cours de la conversation, a présenté le Hamas comme une forme de résistance. Alors, est-ce que le Hamas, est-ce que le Hamas a fait le 7 octobre 2023 relève de la forme légitime de résistance ? Dire ça, c'est énorme. Dire ça, c'est énorme.
Bah après, la question du Hamas, le Hamas ne concernait, de ce que j'en sais, hein, après je ne vais pas dire de bêtises, j'ai pas envie de dire de bêtises d'ailleurs, le Hamas ne concernait pas que la Palestine, même si le 7 octobre était visait en tout cas à faire une attaque contre Israël. C'était complètement le cas avec tir de mortier, tir de roquette qui a eu lieu sur la frontière. Il y a aussi comme toute guerre en soi, il y a aussi des échanges. Ce n'est pas tout blanc, tout noir. C'est là où je veux en venir.
Mais le Hamas, il n'y a pas eu le 7 octobre, il n'y a pas eu d'échange.
Oui, bien sûr.
Le 7 octobre, ce n'était pas des tirs de mortier. Il y a eu peut-être des tirs de mortier, j'en sais rien.
Il y a eu des
exactions atroces.
Oui, bien sûr.
Il y a eu atrocités.
Bien sûr.
Il y a eu des massacres, comme tout
crime de guerre. Il y a eu des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité qui ont été faits.
Ce serait un débat sur la signification de crimes de guerre et la signification de crimes contre l'humanité. Sans le démontrer maintenant, je dirais le 7 octobre, crime contre l'humanité. J'ai pas relevé tout à l'heure, mais vous disiez que la quantité était un facteur, un paramètre de la définition du crime du génocide ou du crime contre l'humanité. Je le contesterais, c'est pas la quantité.
Je ne l'avais pas formulé comme ça, je l'avais plutôt formulé qu'on avait du mal à quantifier ce qu'est un génocide.
À partir de combien y
a-t-il... Voilà, oui, exactement.
Oui, mais c'est prendre la quantité comme un paramètre discriminant,
oui,
significatif.
Oui, oui.
Or, vous avez un cas, par exemple, connu, Srebrenica. Mm-hmm. Il y a eu 7000 morts. 7000 hommes qui ont été tués à Srebrenica. Mmh. Néanmoins, il est considéré par les juristes, c'est peut-être pas le seul critère, le juriste, mais en tout cas, il est considéré par beaucoup de juristes comme un génocide. Mmh. Pourquoi ? Parce que, comme on tue exclusivement les hommes, la population ne peut plus se reproduire. C'est l'argument qui a été mis en avant par un certain nombre de juristes. Mais en tout cas, 7000... c'est pas la quantité, c'est pas la quantité sous laquelle on se représente ordinairement le mot génocide ou le mot crime contre l'humanité. Alors, je ne veux pas développer maintenant, mais peut-être qu'on pourrait faire une émission d'ailleurs là-dessus. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'un génocide? Qu'est-ce qu'un crime contre l'humanité? Mm-hmm. Qu'est-ce qu'un crime de guerre? Faut-il considérer qu'au top niveau de la cruauté, il y a le génocide, ensuite un peu moins le crime contre l'humanité, puis en dessous encore le crime de guerre. Mm-hmm. Je pense que c'est pas la bonne manière d'aborder la question. D'un mot seulement, ce qui est en cause, c'est l'illimité.
Oui.
Les juristes le reconnaissent à leur manière en parlant à propos du crime contre l'humanité et du génocide, mais pas du crime de guerre. Ils parlent d'imprescriptibilité, c'est-à-dire sans condition de temps et de lieu. Si on sort du temps et du lieu, on sort du droit à certains égards également. Mmh. Et bien donc, la formulation juridique du crime de guerre, la définition juridique du crime de guerre la définition juridique du génocide et du crime contre l'humanité est une définition juridique qui a ce côté paradoxal de sortir elle-même du droit, des limites du droit. Mais et c'est là que c'est dans cette sortir de la limite que on trouve la notion de génocide ou de crime contre l'humanité. J'invite d'ailleurs les auditeurs à lire le beau livre de Philippe Sand, qui est un avocat, Retour à Lemberg, qui met en scène les deux inventeurs, juristes, les deux inventeurs des mots, crime contre l'humanité, c'est un Polonais de Lemberg qui s'appelait Hersch Lauterpacht, et le génocide, c'est un autre Polonais qui s'appelait Raphaël de Lemberg aussi. Lemberg qui est devenu Lviv, Lvov, et puis Lviv en ukrainien. C'est un autre juriste qui s'appelait Raphaël Lemkin. Alors c'est donc, si vous voulez, on a affaire à la discussion entre Raphaël Lemkin et Hersch Lauterpacht. Mais laissons ce point. Je relevais simplement ce qui, dans le texte de la pétition. Est véritablement problématique. Un autre thème qui est mis en avant dans la pétition, c'est la défense de la liberté d'expression. La défense de la liberté d'expression. Le paradoxe, c'est que ces gens qui se veulent de gauche, parce que la pétition vient de la gauche, vient d'un certain nombre de mouvements de gauche, eh bien, ces gens qui se veulent de gauche reprennent en fait des arguments de l'extrême droite. Qui est le premier à avoir parlé de la question de la liberté d'expression? Eh bien, c'est en 1886, Édouard Drummond, pas Dumont, mais Édouard Drummond, avec la France, son livre qui sort à ce moment-là, La France juive, qui devient un totem de l'antisémitisme du 19e siècle, de la fin du 19e siècle et du 20e siècle, du début du 20e siècle également. Mmh. Hein, Bernanos avait une admiration sans limite pour Drummond, mon bon maître Drummond, disait-il, le grand écrivain Georges Bernanos, et qui finira par dire tout de suite après la guerre, Monsieur Hitler nous a interdit l'usage du beau mot d'antisémitisme. Alors, voilà, c'est aussi les choses, enfin, les choses qu'il faut resituer dans leur époque. Eh bien, Drummond est le directeur d'un journal antisémite, par définition, qui s'intitule La Libre Parole. La Libre Parole, c'est-à-dire que toute cette mouvance d'extrême droite antisémite se réclame, se revendique de la liberté d'expression. Et c'est par rapport à la liberté d'expression, dans ce contexte de l'expression libre, c'est-à-dire aussi de la loi de 1881, qu'on a imaginé des dispositifs internes à cette loi pour lutter contre le racisme. Alors, on n'a pas parlé d'antisémitisme à ce moment-là, le racisme. Mais l'antisémitisme étant à ce moment-là, on a fait un paquet et l'antisémitisme était compris dans le racisme. En 1972, la France sortait de la période coloniale qui, dans laquelle le racisme était, allait de soi. C'était même pas, c'était pas même une question. Donc, l'extrême droite protestant contre la loi revendique à ce moment-là encore la liberté d'expression. On ne peut plus rien dire. On ne peut plus rien dire, autrement dit. Hein, voilà l'expression bien connue, on ne peut plus rien dire. Encore un épisode, la loi Guesso, en 1990. La loi Guesso qui réprime la négation du génocide, à propos du génocide nazi, à propos de ce qui va devenir, ce qui va finir par devenir la Shoah. Eh bien, la loi Guesso trouve devant elle un cénacle d'historiens, donc une opposition cette fois-ci informée, instruite, d'historiens, d'universitaires, qui vont dire « mais c'est la liberté d'expression qu'on met en jeu ». Et ils lancent un appel qui s'intitule « Liberté pour l'histoire ». Alors avec des gens comme René Raymond, historien de la droite française, historien prestigieux, figure prestigieuse de l'université, René Raymond, ou encore Pierre Nora, qui est mort il n'y a pas très longtemps, qui anime ce comité Liberté pour l'Histoire. Donc vous voyez, c'est cette revendication de la liberté d'expression. Elle n'est pas neuve, mais le problème, ce qui ici est presque ironique, c'est qu'elle a été utilisée par l'autre bord, par le bord d'extrême droite. Et cette fois-ci, c'est ce bord de gauche qui va revendiquer la liberté d'expression en disant « mais on ne pourra plus faire de recherche, par exemple, on ne pourra plus faire de recherche historique, c'est interdire la liberté intellectuelle, etc. »
Il y a aussi l'aspect, on en parlait tout à l'heure, des médias, donc les réseaux sociaux. Il y a aussi les cas où, pour en parler, tout ce qui concernait donc le pseudo-journalisme, j'appelle ça comme ça, des personnes qui révèlent par exemple des articles qui ont été faits, admettons, sur, là récemment, on pourrait parler de, je ne sais pas, du détroit d'Ormuz, ou alors des frappes qu'il y a eu peut-être en Cisjordanie, au Liban. Enfin voilà, le passage pour certains trouvent en tout cas que lorsque le sujet de du conflit israélo-palestinien et a lieu qu'importe les deux bords, que ce soit du côté palestinien ou du côté israélien, il y a une espèce de censure qui a été fait, qui est fait par les réseaux sociaux. Je pourrais parler par exemple de TikTok, qui est l'un des plus grands, qui est connu aussi pour ceux qui connaissent, qui s'appelle le Shadowban. Pour expliquer tout simplement, c'est lorsque par exemple quelqu'un fait un post, le post a été publié, donc il y a bien eu une publication, sauf que les gens ne peuvent pas le voir. C'est l'application qui le censure directement. Et je pense que ce motif-là enfin, en tout cas, ce qui est stipulé dans ce texte de cette pétition du blocage qui peut avoir lieu, entre guillemets, de la liberté d'expression si ce projet de loi passe, donc le projet Adam passe, je pense que ça peut faire une allusion à ça. Après, avoir à faire des recherches aussi, ça peut être aussi un autre débat, donc comment fonctionne la médiatisation, par exemple lors d'un conflit, ça peut être complètement un sujet d'un débat. Enfin voilà, tout ça pour dire aussi que ça peut être aussi, ça peut concerner aussi ce type, enfin ce message, pardon, peut concerner ce type d'utilisation des médias. Donc voilà.
Bon, alors un autre point que, puis ce sera le dernier que je vais mentionner. Évidemment, la liberté pour tous de la mer au Jourdain. Alors, l'histoire de la mer au Jourdain, c'est une façon de rayer Israël de la carte. C'est-à-dire la négation de la légitimité de l'État d'Israël, de la mer au Jourdain. Alors, il y a des discussions qui se sont engagées là-dessus, sur cette expression. Mais vous vous rappelez peut-être que derrière le côté mécanique de l'expression de la mer au Jourdain, quand on interroge les uns ou les autres, par exemple Madame Panot, elle ne sait pas, elle ne savait pas dire de quel arrondi. C'était pas de la mer au Jourdain, c'était de la rivière à la mer, from the river to the sea. Et elle ne savait pas de quelle rivière il s'agissait. Donc, oui, c'est là, il y a un côté, cette situation où le slogan, où la frénésie politique, et je vais jusqu'à dire la frénésie antisémite, l'emporte sur la rationalité, sur le savoir le plus élémentaire. Alors, voilà ce que je voulais dire à propos de cette pétition qui constitue en elle-même un événement. 700 000 par rapport à la population française,
ça représente 1%.
Mais ça, c'est 700 000 personnes pour qui l'antisémitisme n'est pas un problème, n'est pas une question, qui ne le voient pas, qui au mieux ne le voit pas, et qui au pire l'instrumentalise. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Je voulais parler de l'événement du 28 avril,
oui,
à 20h, aux archives, autour du journal d'Etil Soum, deux musiciennes, Marie Anaf et Véronique Martineau. Marie Anaf comme chanteuse et comédienne, et Véronique Martineau comme pianiste, ont imaginé de mettre en musique, ou d'accompagner, de faire un commentaire musical par rapport à des extraits du journal de Etil Soum. Alors, Etil Soum, je lis, d'abord permettez-moi, je vais lire l'annonce l'annonce de l'événement. J'allais lire du concert, mais c'est autre chose encore qu'un concert, c'est la combinaison entre un concert et une lecture. Etil Soum est morte assassinée à Auschwitz le 30 novembre 1943. De 1941 à 1943, cette jeune femme juive hollandaise va tenir un journal de bord, consignant ses doutes, ses espoirs, ses élans amoureux, mais surtout son incroyable amour de la vie. Pleine de contradictions, d'envies inassouvies, d'hésitations, d'idées toutes faites et d'autres à faire, elle se raconte directement, extraordinairement. Le journal d'Ethil Soum est un itinéraire menant de la situation d'horreur des Juifs hollandais, confrontés à l'occupation nazie, à une affirmation nourrie de poésie et de musique, et stupéfiante de liberté. Une affirmation sans réserve de la vie, une affirmation sans réserve de la vie, par-delà les pires circonstances. Dans les temps troublés que nous traversons, son témoignage force d'admiration et apporte des raisons inédites d'espérer. Maria Naf, soprano lyrique et comédienne, accompagnée de la pianiste Virginie Martineau, a choisi des extraits du répertoire classique pour commenter les extraits du journal qu'elle lira. Alors, voilà, j'ai présenté, j'ai lu, j'ai relu l'invitation à l'inscription. D'ailleurs, au passage, je dis, ceux qui voudraient venir, inscrivez-vous sans trop tarder parce que le nombre de places est limité. Je ne sais pas où on en est maintenant du nombre de places, mais il y a à peu près une centaine de places aux archives départementales. C'est une belle salle, un auditorium où le son n'est pas massacré. Et le cadre est superbe, donc inscrivez-vous par internet sans tarder. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Oui, alors Ethil Soum, c'est une figure extraordinaire, complètement singulière, extraordinaire, qui rappelle, si on devait faire des comparaisons, on pourrait penser à Edith Stein. Alors Edith Stein, c'est sans doute pas un nom connu des auditeurs. Edith Stein était une philosophe, élève du grand philosophe Husserl, comme Emmanuel Lévinas a été aussi élève de Husserl, de la phénoménologie. Mais alors elle était juive et donc elle était élève et assistante aussi, elle a été plus qu'élève, elle a été assistante de Husserl, et elle s'est convertie au christianisme. Elle est rentrée au Carmel, elle est devenue carmélite, ce qui n'a pas empêché qu'elle soit arrêtée pendant l'occupation. Elle était en Hollande, dans un Carmel hollandais. Elle a été arrêtée pendant l'occupation et exterminée à Auschwitz. Alors, c'est une figure mystique, qui a une conception, alors, par le biais du christianisme, qui a une conception de la foi, mais qui est en même temps à la mesure de ce qui est en train de se passer sous ses yeux. Et puis de ce dont elle va être ultimement la victime. L'autre figure que l'on pourrait évoquer à propos de Ethil Soum est plus connue cette fois-ci, c'est Simone Veil, mais pas la ministre, pas. Simone Veil avec W, hein, et, non pas V-E-I-L mais W-E-I-L, qui est une philosophe d'un immense talent, là aussi une figure complètement atypique, et qui, elle, ne se convertira pas, mais sera au seuil de la conversion, et qui mourra dans une sorte de passion pour l'humanité, qui passe par une passion sociale également pour l'humanité, un rapport à la souffrance prolétarienne. Et elle mourra à Londres, probablement, enfin de maladie, mais liée aussi au régime ascétique qu'elle s'imposait. Et puis, autre figure dont on pourrait parler à propos d'Ethil Soum, pour essayer de faire un rapprochement, c'est toutes des figures dans la même période. dans la même période, qui meurent toutes les trois pendant l'occupation, c'est Henri Bergson, le grand philosophe, l'immense philosophe, Henri Bergson, qui lui aussi est au seuil de se convertir. En 1938, il laisse un testament disant que je me serais converti si je n'avais pas vu fondre sur l'Europe cette vague cette immense vague d'antisémitisme. Alors, bon, geste très courageux de Bergson, qui mourra en 41, qui mourra aussi pendant l'occupation et en 1941 et des rigueurs de l'occupation aussi. Voilà le trois figures qui donnent une image, enfin qui approche de ce qu'a été Étil Soum. Alors le mieux que je puisse faire ici, peut-être, c'est de lire. Je lis une page, du journal. Un journal. Vous voyez, là, je vous le montre, mais il fait dans les. Il est pas loin de, oui, j'allais dire, il est pas loin, il dépasse les 1000 pages. Hein.
Oh.
Donc, c'est quelqu'un qui écrivait beaucoup. Alors, la page datée du 17 septembre 1942, elle est dans un camp de regroupement en Hollande, Westerbork. Elle tient son journal et puis en même temps elle a une fonction dans le camp d'assistance d'administration dans le
secrétariat d'une forme de secrétariat
okay. Le sentiment de vie, 17 septembre 1942, jeudi matin 8h, le sentiment de la vie est si fort en moi, si grand, si serein, si plein de gratitude que je ne chercherai plus jamais à l'exprimer en un seul mot. J'ai en moi un bonheur si complet et si parfait, mon Dieu. Ce qu'il exprime encore le mieux, ce sont ces mots à lui, reposer en soi-même. C'est peut-être l'expression la plus parfaite de mon sentiment de la vie. Je repose en moi-même. Et ce moi-même, cette couche la plus profonde et la plus riche en moi, où je repose, je l'appelle Dieu. Dans le journal de Tide, un ami, j'ai rencontré souvent cette phrase. Prenez-le doucement dans vos bras, père. Et c'est bien mon sentiment perpétuel et constant, celui d'être dans les bras, mon Dieu, protégé, abrité, imprégné d'un sentiment d'éternité. Tout se passe comme si chacun de mes souffles était pénétré de ce sentiment d'éternité, comme si le moindre de mes actes, la parole la plus anodine, s'inscrivait sur un fond de grandeur, avait un sens profond. Alors, j'arrête là la lecture, mais vous voyez ce qui apparaît. Alors, c'est à toutes les pages une lecture, un journal qui est constamment au contact de la religion, oui et non.
De manière métaphorique, j'allais
oui,
dire.
Oui, parce qu'elle ne se convertit pas au christianisme. Elle ne passe pas directement par le christianisme. C'est une religion intérieure, elle trouve en elle la force d'une ou la dimension d'une affirmation qui est en quelque sorte en marge de l'événement autour d'elle, de tout ce qu'elle voit autour d'elle, auquel elle participe, à quoi elle participe, et de manière très active. Mais par ailleurs, cette dimension intérieure qu'elle appelle la vie. Et ici, dans la page que j'ai lue, qu'elle appelle Dieu. Alors, Dieu n'est pas un être tout-puissant, etc. Dieu, c'est cette dimension d'affirmation spirituelle, mystique, pourrait-on dire, et qui lui donne un sens de l'éternité qui n'est pas l'éternité qui arriverait au cadavre, finalement,
à l'âme,
il n'est pas mort, on ira quand même au cinéma après. C'est une éternité dans l'instant, une éternité dans une affirmation qui ne dépend pas, qui n'est pas atteinte par les circonstances. Elle est malade, elle voit tout ce qui se passe, elle sait qu'elle va Alors déjà, à ce moment-là, les reclus savent, ou on leur dit, ou la rumeur court que déportés à l'Est, ils n'en reviendront pas, qu'il y a des gazages. Ils ont entendu parler des gazages, il y a un témoignage, enfin, elle le dit. Il y a le ghetto, elle dit, les Allemands dressent des murs pour enfermer les Juifs, etc. Enfin, tout ça, elle en est consciente, elle le sait. Mais par ailleurs, ça n'altère pas quelque chose dans elle qu'elle appelle alors son humanité, mais qu'elle appelle aussi qu'elle appelle Dieu. Alors qu'est-ce qui justifie ce mot? Ben c'est justement l'idée que l'événement extérieur n'atteint pas cette couche spirituelle intérieure et qui va constituer constamment la trame du journal. Alors en relation avec ça aussi, ça doit être dit, c'est remarquable, il y a son rapport à la poésie, en particulier la poésie du poète allemand Rainer Maria Rilke. En plus de ça, autre dimension aussi qu'il faut mentionner pour comprendre ce qui se passe, cette dimension humaine d'exception qu'est Il Sum, ça se passe à travers plusieurs langues. Bon, bien sûr, elle parle hollandais, puisque
Elle vient de
elle est
loin.
néerlandaise, puisqu'elle est hollandaise, mais elle parle parfaitement allemand, elle parle russe également. Donc, tout se passe entre un horizon littéraire qui traverse toutes ces littératures, notamment la littérature allemande avec notamment Rainer Maria Rilke, mais aussi les grands Russes, Dostoïevski, Lermontov, etc., qui constituent cet élément spirituel qui ne cesse de la nourrir. Et la musique, bien sûr, elle parle beaucoup de Beethoven, de Schubert, de Beethoven, dans ce journal. Alors, d'où aussi la pertinence de l'entreprise de Marie Hanaff, notre soprano, qui va ponctuer, commenter, accompagner des lectures du journal, de certaines pages du journal, je ne sais pas lesquelles elle va choisir, enfin elle ne les lira pas toutes, hein, mais qu'elle va ponctuer, accompagner et commenter par des interprétations du répertoire classique. Voilà ce qui nous attend, ce qui vous attend. Et je ne saurais trop vous recommander de vous rendre à ce spectacle c'était l'autre aspect que je voulais souligner, a une pertinence aussi pour aujourd'hui, parce que dans la succession d'événements sans queue ni tête qui se produisent aujourd'hui, il faut trouver une raison d'espérer. Et je disais sans queue ni tête, je pensais à l'expression qu'on trouve dans le Macbeth de Shakespeare, disant que le monde est une histoire. Alors, il dit pas, Shakespeare ne dit pas sans queue ni tête. Alors l'expression m'échappe à l'instant, dénuée de l'expression de raconter est un conte, une histoire racontée par un imbécile, par un idiot, racontée par un idiot, et qui ne, voilà, c'est ça, a tale full of told by an idiot, pardon pour l'accent, a tale told by an idiot, full of sound and fury, and signifying nothing. Hein, une histoire racontée par un idiot, pleine de bruit et de fureur, d'où l'expression que reprise par Mélenchon
Ne
et
signifie rien.
reprise par Faulkner aussi, le bruit et la fureur. C'est un immense roman de Faulkner. Une histoire pleine de bruit et de fureur, racontée par un idiot et qui ne signifie rien. et qui ne signifie rien. Alors dans ce monde que nous voyons, que, dont nous ne pouvons pas dire qu'il n'est pas plein de bruit et de fureur et qu'il signifie quelque chose d'évident, le journal d'Etin Soum maintient une affirmation intérieure marginale par rapport à ce qui se passe à l'extérieur et qui, là, signifie l'affirmation humaine et signifie la vie.
Et c'est sur ce message, je pense,
oui.
Alain, que nous allons nous quitter avec ce grand débat, en tout cas, cette longue émission hein, qui a duré assez longtemps quand même, qui, dans le fait, on a parlé du projet de loi Yadan, on a parlé aussi donc de...
Du soulèvement du ghetto de Varsovie.
Du soulèvement du ghetto de Varsovie qui a eu lieu le 19 avril 1943, à ne pas oublier, car c'est un événement qui reste quand même un tournant historique sur le plan social et sur le plan humain. Ça, il ne le faut pas oublier. Et du coup, sur cette fin, avec donc le concert qui va avoir lieu le 28 avril à 20h, sur la lecture de manière musicale du texte El Til Soum et des trois personnes reconverties, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, en tout cas au catholicisme, si je ne me trompe pas.
Oui,
en tout cas,
alors je les prenais comme point de comparaison.
Comme point de comparaison, bien sûr.
Mais ce n'est pas exactement le cas de El Til Soum. Il y a eu, j'avais entendu il n'y a pas très longtemps, un bout d'émission, je crois que c'était sur France Inter, de Laure Adler, sur El Til Soum, avec comme invité Delphine Horviller. Et Delphine Horviller soulignait justement plutôt les différences qu'il y avait avec quelqu'un comme les personnages que j'ai évoqués. Avec Edith Stein et notamment avec Simone Veil.
Simone Veil et non pas Simone Veil comme
oui,
la première ministre.
Simone Veil, la Veil, philosophe.
Comme Veil en allemand, W-E-I-L.
Oui, voilà, c'est ça, Simone Veil.
Simone Veil.
Voilà.
En tout cas, merci Alain pour ce débat et pour ce podcast. Et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle émission.
Très bien.
Merci.
Au revoir. Au revoir aux éditeurs. Merci de m'avoir reçu.